Radio Kapi. Oh, Kapi. Présenté par Lievin Bouinga.
Bonjour et merci de choisir Radio Kapi pour vous informer à la une de l'actualité. C'est encore et toujours la situation sécuritaire à Goma. Avec cette réaction ferme du Conseil de sécurité de l'ONU, il appelle le M23 à déposer les armes et condamne ses avancées dans l'est de la RDC dans une déclaration publiée hier à New York. Vous suivrez aussi plusieurs réactions des personnalités comme le ministre belge des Affaires étrangères, le président de l'Union africaine qui condamne évidemment l'attaque de Goma. Pendant ce temps, une autre affaire guette le Congo, c'est l'ouverture du procès RDC-Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie. Plus de 300 experts sont en atelier à Kinshasa pour préparer ce rendez-vous. Notre invité est Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux électoral. Il nous parle justement de ce procès RDC-Rwanda qui s'ouvre à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en février prochain à Arusha. Encore une fois, bonjour, mais avant d'aller plus loin, notez d'abord que le chef de l'État va s'adresser à la nation et va présenter plusieurs mesures prises tant sur le plan militaire, politique et diplomatique pour faire face à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé aux ennemis du peuple congolais, rassure le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État a présidé hier lundi à la Cité de l'Union africaine jusqu'au-delà de 23 heures une réunion interinstitutionnelle consacré exclusivement à l'évaluation de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est du pays et particulièrement dans la ville de Goma. On prit part à cette rencontre le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale, la première ministre ainsi que le procureur général près la Cour de cassation, représentant le président de la Cour constitutionnelle en déplacement qui ont tous félicité la population du Nord Kivu, les vaillants combattants des FRDC et les Wazalendo pour avoir contenu les assauts des terroristes et agresseurs de la RDC. Au sorti de cette réunion, le président de l'Assemblée nationale annonce l'adresse du chef de l'État à la nation pour présenter plusieurs mesures prises tant sur le plan militaire, politique et diplomatique pour faire face à cette crise sécuritaire. On écoute Vital Kamerhe dans cet extrait proposé par Michel Kifindangoy.
Nous avons exploré les voies et moyens pour, un, restaurer l'autorité de l'État au niveau de la province dans le Nord Kivu, qui doit continuer à être administré par l'autorité nommée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Nous avons aussi relevé la question humanitaire. Comme vous le savez, il y a coupure d'électricité depuis près de 4 jours dans la ville de Goma et nous ne pouvons pas supporter cette situation de désastre humanitaire vis-à-vis de notre population. Nous avons aussi, avec le Président de la République, exploré la voie de sortie des crises qui intègrent la question, le volet politique et le volet diplomatique. Le contenu de ce plan de sortie des crises vous sera donné le moment venu. Enfin, nous vous informons que le Président de la République, c'est comme ça que nous n'entrons pas dans beaucoup de détails, va s'adresser à la nation.
L'actualité reste toujours dominée par la situation sécuritaire à Goma. Vous avez compris, nous vous proposons cette réaction du Conseil de sécurité de l'ONU. Il appelle le M23 à déposer les armes et condamne ses avancées dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette déclaration du Conseil de sécurité a été publiée hier lundi après cette réunion d'urgence sur la situation en RDC. Grâce à Hamzati pour les détails.
Le Conseil de sécurité affirme que les avancées du M23 constituent une grave violation du cessez-le-feu, aggravent la crise humanitaire et des déplacements dans l'est de la RDC et compromettent les efforts visant à parvenir à une solution pacifique et politique durable au conflit. Le Conseil dit constater l'expansion du groupe rebelle soutenu par Kigali dans la province du Nord Kivu où les rebelles ont pris le contrôle des localités. Les membres du Conseil expriment également leur inquiétude face à la menace sur Goma, le chef-lieu de la province, mettant ainsi en danger des centaines de milliers de civils. Les combats entre les forces armées du gouvernement de Kinshasa et les rebelles s'intensifient dans et autour de la ville de Goma. Les membres du Conseil de sécurité condamnent par ailleurs le mépris flagrant de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Ils exigent que ces forces se retirent immédiatement et que les M23 mettent fin à la mise en place d'administrations parallèles sur le territoire de la RDC. Le Conseil exhorte les Rwanda et la RDC à reprendre les pourparlers diplomatiques pour parvenir à une résolution durable et pacifique du conflit.
Notez aussi que des réactions fusent de partout à la suite de la crise qui secoue la ville de Goma. Au niveau régional, nous vous signalons que la participation du président Félix Tshisekedi au sommet extraordinaire d'urgence sur la situation dans l'est de la RDC n'est pas encore à l'ordre du jour. Un sommet initié par le président kényan William Ruto. Cette annonce est de la porte-parole du chef de l'État congolais. Tina Salama l'a indiqué hier lundi à l'agence congolaise de presse. Le ministre belge des Affaires étrangères s'est lui prononcé sur l'incursion des rebelles du M23 à Goma. Bernard Quintin a condamné hier lundi l'invasion de la RDC, particulièrement l'attaque de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dans un message sur son compte X, le ministre belge des Affaires étrangères appelle à plus d'actions contre cette agression rwandaise. Suivez d'autres réactions avec Alain Irung.
La prise de Goma est une violation supplémentaire et inacceptable de l'intégrité territoriale de la RDC et du cessez-le-feu de Luanda. Les mots seuls n'ont pas suffi. Nous devons agir pour que soit respecté et préservé le droit international, a écrit Bernard Quintin, ministre belge des Affaires étrangères. Je suis gravement préoccupé par l'évolution de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. J'appelle instamment au respect du droit international humanitaire, à l'arrêt immédiat des hostilités et à la reprise des négociations. C'est ce qu'écrit sur son compte X le président mauritanien Mohamed Cher El Razouani, président en exercice de l'Union africaine. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tiendra mardi une session d'urgence sur la situation dans l'est de la RDC, en proie à des combats entre les forces congolaises et les combattants du groupe armé M23 et soldats rwandais, a annoncé lundi à l'AFP, l'organisation panafricaine. Notez qu'au cours d'un échange ce lundi à Kinshasa, la vice-ministre congolaise des Affaires étrangères Gracia Yamba Kazadi a présenté les condoléances du gouvernement de la RDC au gouvernement sud-africain suite au décès de ses soldats dans l'est de la RDC pendant qu'ils combattaient la rébellion du M23.
Et puis cet appel du Baraza intercommunautaire du Nord Kivu qui s'implique aussi dans ce dossier alors que la situation sécuritaire demeure volatile dans la province. Cette structure invite toutes les communautés du Nord Kivu à l'amour et à l'unité. Le responsable de Baraza intercommunautaire rappelle les difficultés que les habitants traversent et qui nécessitent une cohésion et un soutien mutuel. Pour lui, c'est en étant unis que la population du Nord Kivu devra surmonter ce moment difficile. Olivier Kitsa est joint par Ronly Timbonera.
Le Baraza Lawaze demande cependant à tous les membres des communautés ethniques que le moment étant très douloureux et désespéré, nos communautés doivent s'interdire de tomber dans les pièges de la haine et doivent plutôt privilégier la cohésion et la cohabitation entre les communautés, comme cela a toujours été notre habitude. Il est important que pendant ce temps, tout le monde puisse mettre au premier plan l'amour du prochain, qui nous éviterait des actes de vandalisme, vol, pillage, règlement de comptes. Que toutes nos communautés ethniques adoptent une attitude de résilience pendant ce temps. Comme vous le savez, Goma est dépourvue de tout, de l'électricité, de l'eau, et donc la vie est tellement intenable, d'où nous demandons à la communauté internationale de tout mettre en œuvre pour que toutes les communautés de la province du Nord Kivu puissent retrouver la vie.
Mais comment vit justement cette population de Goma à l'heure actuelle? En tout cas, la ville traverse une crise sans précédent alors que les combats entre les FRDC et leurs alliés Wazalendo contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda se poursuivent pour le contrôle de Goma. Privé d'eau et d'électricité depuis 5 jours, des millions d'habitants sont nombreux à se terrer dans leurs maisons et de déplacés luttent pour leur survie dans une situation humanitaire alarmante. C'est un papier de Martial Papi Mukeba rendu par Élisée Chikota.
Depuis vendredi, plusieurs quartiers de Goma au Nord Kivu sont privés d'eau et d'électricité. Ces coupures font suite aux dégâts subis par des lignes électriques, celles de la Société nationale d'électricité reliant Bukavu à Goma et celles de Virunga Energy approvisionnant la ville depuis la centrale de Matebe dans les Rutshuru. Les infrastructures ont été endommagées lors des combats entre les FRDC et les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les zones de Minova et Nirangongo. Privés de ces services essentiels, des millions d'habitants et des déplacés déjà affectés par les affrontements luttent pour leur survie. Certaines familles cloîtrées chez elles parviennent à recharger leur téléphone grâce à des panneaux solaires, mais la majorité reste coupée du monde sans moyen de communication. Cette situation suscite l'inquiétude, notamment parmi ceux ayant des proches à Goma. Beaucoup se disent sans nouvelles depuis des jours. Des acteurs de la société civile appellent FRDC et l'M23 à permettre d'urgence la réparation des lignes électriques dans les zones de combat et à rétablir l'approvisionnement en eau. Une population terrée chez elle ne peut être privée d'eau et d'électricité, sinon c'est la condamnée à mort, déplore l'un d'eux. Alors que le combat entre FRDC et rebelles du M23 pour le contrôle de Goma continue, la privation de ces services aggrave une crise humanitaire déjà critique.
Une autre conséquence de cette situation, c'est la suspension du trafic sur le lac Kivu. Aucune embarcation n'a quitté Bukavu pour Goma depuis hier lundi. Les armateurs suspendent le trafic en attendant que les conditions sécuritaires s'améliorent au chef-lieu du Nord Kivu. Jean Kassami a constaté l'inactivité des embarcations dans tous les 14 ports de Bukavu. Voici son reportage.
Les tout derniers bateaux ont accosté la nuit dimanche 26 janvier 2025 au port Mugote, Emmanuel et Aganzé. À leur bord, aucun civil, tous des militaires FARDC en provenance de la ligne de front à Goma. Mahano Gadi, gérant des établissements Salama à Bukavu.
Tous les bateaux, même des barges, étaient obligés de venir à Bukavu. Les militaires sont entrés dedans, tous armés. Ils étaient nombreux. Tous sont venus la nuit et sont arrivés le matin.
D'autres embarcations ont échoué sur le lac pour diverses raisons. Les unes ont connu des pannes sèches de carburant. Elles ont été réquisitionnées dans la précipitation. L'arrêt brusque des trafics sur le lac Kivu inquiète les armateurs ainsi que la population.
À Bukavu, nous ne produisons rien. Tout vient de Goma. Comme il n'y a plus de navigation, il y aura grande famine ici à Bukavu. Et nous regrettons beaucoup.
L'autre voie d'approvisionnement par route sur Kalehe vers Minova est également coupée. La ville de Bukavu demeure ainsi enclavée. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Sécurité encore, mais sur une autre zone, en Ituri précisément, au moins 10 personnes ont été tuées et d'autres blessées le week-end par des rebelles des ADF vers Mambelenga et Ndimo, au sud du territoire d'Irumu, sur la route nationale numéro 4. Selon des sources locales, des hommes armés ont établi leur bastion dans la région, ce qui a paralysé les activités agricoles pour des centaines de familles de retourner dans cette entité. Face à cette difficulté, la société civile locale demande aux forces conjointes FRDC armée ougandaise de traquer ces ADF à l'intérieur des forêts. Le point avec Isaac Remoyope.
Des attaques simultanées des rebelles des ADF ont été enregistrées le week-end dans la chefferie de Walese Vonkutu sur l'axe Komandaluna dans les territoires d'Irumu. La première s'est déroulée dans la forêt vers Mambelenga où une dizaine d'habitants ont été surpris dans leurs champs, affirment des sources de la société civile. 9 personnes ont été tuées et une autre est blessée. Leurs corps ont été acheminés dans la province voisine du Nord Kivu pour inhumation. La seconde attaque de ces hommes armés a eu lieu samedi sur l'axe Mungamba Ndimo dans la même entité coutumière. 3 motards ont essuyé des tirs, l'un est mort sur place et l'autre a été blessé. Leurs motos et les caisses de bière qu'ils transportaient ont été incendiées, précise la société civile. Cette structure citoyenne ajoute que ces rebelles ont érigé leur bastion dans la forêt de Mambelenga, ce qui empêche des centaines de familles dans la localité située le long de la RN4 d'accéder à leurs champs. Elles demandent aux forces conjointes de mener des opérations dans la profondeur de la forêt en vue de démanteler ces rebelles qui constituent une menace permanente pour la sécurité de la population. Bounia, Isaac Remoyo, Radio Okapi.
Justice à 2 semaines de l'ouverture du procès RDC Rwanda devant la Cour africaine de droits de l'homme et de peuple. Le gouvernement congolais affûte ses armes à Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'il a organisé un atelier ayant réuni autour d'une table plus de 300 acteurs étatiques, non étatiques ainsi qu'experts juristes hier lundi à Kinshasa. Objectif, préparer cette affaire qui débute ce 12 février à Arusha en Tanzanie. D'autres détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Les participants à cet atelier proviennent du gouvernement, de la société civile et des institutions d'appui à la démocratie. Au cours de ce forum, ils peaufinent des stratégies pour aider le gouvernement à collecter des preuves tangibles de l'agression rwandaise dans l'est du pays et de renforcer les plaidoyers de la RDC à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour le vice-ministre de la Justice et contentieux international, cet atelier offre également l'opportunité d'harmonisation de vues sur cette question entre le gouvernement et la société civile. Samuel Mbemba.
Nous avons pensé qu'il faut aussi déjà impliquer la société civile pour la collecte des preuves et la dimension des dénonciations dans l'ensemble. Donc actuellement, les avocats se préparent pour l'audience qui va s'ouvrir le 12 février 2025, la société civile aussi.
Il est persuadé que ce procès va se clôturer par la condamnation du régime de Kigali et de son président Paul Kagame. Pour rappel, ce procès initié en septembre 2023 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait partie du front judiciaire à côté d'autres fronts que mène la RDC, à savoir militaire, diplomatique et médiatique, pour faire échec à l'agression rwandaise.
La peine capitale a été reconduite au procès de la tentative de coup d'État manqué le 19 mai à Kinshasa, ce lundi, à la prison militaire de Ndolo. Lorsque la politique entre au palais de justice, le droit se tait. C'est par ces mots que l'avocat de l'expert militaire belgo-congolais Jean-Jacques Wondo regrette le verdict rendu par la haute cour militaire. Celle-ci confirme en appel le premier arrêt condamnant son client à tous les autres et tous les autres prévenus, 37 au total, à la peine de mort. Le juge d'appel n'a tenu compte d'aucune circonstance atténuante à l'égard de tous les prévenus. Selon maître Carlos Nguapichi, plus rien ne sert à se pourvoir en cassation, sachant que tout reste politique et acharnement. Et la réaction de la Belgique ne s'est pas fait attendre. L'ancienne puissance coloniale a, dans un communiqué, rappelé a rappelé provisoirement son ambassadeur à Kinshasa suite à la confirmation de la condamnation à mort de Jean-Jacques Wondo par la haute cour militaire de Kinshasa.
Actualité internationale.
Goma, Syrie, Russie, Ukraine, de gros dossiers au menu du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les 27 ministres européens des Affaires étrangères sont réunis à Bruxelles avec au sommet de l'ordre du jour la Syrie, le Proche-Orient et l'Ukraine. Mais la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, qui évolue d'heure en heure, s'est invitée parmi les préoccupations du jour.
L'invité.
Notre invité Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international. Il s'exprime sur le procès RDC Rwanda qui s'ouvre en février prochain à la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. À cet effet, il a organisé un atelier ce lundi réunissant de nombreux acteurs politiques et de la société civile. Samuel Mbemba s'entretient ici avec Blaise Dongala Mayanda.
Bonjour monsieur le vice-ministre.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quels sont les éléments constitutifs de la plainte de la RDC contre les Rwandais déposée à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple à Arusha en Tanzanie?
Je dois d'abord rappeler que ce procès, initié par la plainte de la RDC en septembre 2023 devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ressort du front judiciaire international conçu et organisé par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, front judiciaire à côté du front militaire et du front. Dans la plainte, la RDC dénonce l'agression de notre territoire, mais aussi les violations massives, répétées et permanentes de droits des populations civiles par le Rwanda de Paul Kagame.
À des semaines de l'ouverture de ces procès, qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire pour les gouvernements congolais?
Il faut dire que c'est la RDC qui avait déposé plainte et le Rwanda a été appelé à comparaître. Et donc, de notre côté, les avocats se préparent pour aller d'abord justifier la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par rapport à sa recevabilité. Et nous avons pensé qu'il faut aussi déjà impliquer la société civile pour la collecte des preuves et la dimension des dénonciations dans l'ensemble. Et donc actuellement, les avocats se préparent pour l'audience qui va s'ouvrir le 12 février 2025, la société civile aussi.
Quelle est l'importance, selon vous, monsieur le vice-ministre, de l'atelier que vous organisez aujourd'hui en marge justement de l'ouverture de ces procès?
L'atelier ici consiste à harmoniser les vues, à fédérer aussi les éléments entre le ministère de la Justice et Contentieux International, les ONG de droits de l'homme qui rassemblent les victimes de notre pays qui vivent les violations de droits de l'homme commises par Kagame en RDC dans leur chair, mais aussi la Commission nationale des droits de l'homme qui est une institution d'appui à la démocratie par excellence dans notre
pays. Le gouvernement congolais bénéficie-t-il de l'accompagnement de certains partenaires dans cette bataille judiciaire?
Absolument. Vous savez que c'est un procès des droits de l'homme. Et qui dit procès des droits de l'homme, il y a le moment où le procès sera terminé avec la condamnation, nous en avons conviction, du Rwanda. Mais il y a aussi des partenaires qui sont très sensibles sur les questions des droits de l'homme. Et qui, lorsque vous êtes dénoncé pour ce genre de violations de droits de l'homme, ils prennent leur distance avec vous. Donc nous avons des partenaires, tant sur le plan national que sur le plan international, qui n'acceptent pas ce que le Rwanda fait en République démocratique du Congo. La preuve, c'est que vous pouvez le voir dans la salle, les ONG les plus importantes de notre pays sont là.
En marge de cet atelier, monsieur le vice-ministre, quel est le message que vous pouvez lancer à toute la population congolaise qui vous suit à travers la Radio Okapi?
Nous voulons lancer un message d'espoir à tout notre peuple pour dire qu'il s'agit de l'agression de notre pays par le Rwanda. Le prétexte de la rébellion n'est pas justifié dans le contexte actuel de notre pays. Parce que si tel était le cas, cela ferait reculer notre pays de plus de 20 ans en arrière sur le plan démocratique. Et donc, que notre peuple soit rassuré que Paul Kagame payera tôt ou tard des crimes imprescriptibles qu'il commet en République démocratique du Congo. Et nous saisissons cette occasion pour demander aux vrais Congolais qui sont avec lui de le quitter au plus vite. Qu'ils ne prennent pas la responsabilité de continuer à verser le sang de leur peuple ou à faire reculer ce pays sur le plan démocratique.
Monsieur le vice-ministre, nous vous disons merci.
Merci beaucoup.
Si se termine ce journal, au nom de Pélékipé Lamondo, Alain Erung et Dieudonné Nyangassa, je vous dis merci de l'avoir suivi et excellente journée à tous.